Je suis né sous Giscard, comme le dit une humoriste et comédienne que j'aime beaucoup, Camille Chamou. Je suis né sous Giscard, dit-elle, pour raconter la France dont elle vient et dont forcément elle se plaint, cette France conservatrice au fief auvergnat qui lui a permis, par ricochet, d'aiguiser son regard comme moi. Cette France qu'elle évoque avec une drôle de nostalgie, si bien qu'à la fin on finit par l'aimer bien, parce qu'après tout, c'est de là que l'on vient. Dans ce spectacle, qui est aussi un livre, je me souviens, il y a une belle place pour Anne Sylvestre, celle des fabulettes avec lesquelles on a grandi. Elles sont amuse, non sans ironie, d'avoir cueilli non pas une pomme, mais un oiseau, un écureuil, un escargot, un chat. On est presque tous passés par là. Et on s'en souvient comme on se souvient des comptines, le refrain, la mélodie coussi-coussa, les couplets n'en parlons pas, mais il suffit de les écouter une fois pour que ressurgissent le manche-disque et la table de cuisine en formica, le goubi-boulga, les trajets à Vulcania, et puis chat, c'est toi le chat. J'ai adoré avant-hier que tout le monde s'excuse de mentionner les fabulettes parce qu'Anne Sylvestre disait, avec l'humeur qu'on lui connaît, qu'elle voulait pas qu'on la réduise à ça. On n'a pas beaucoup mentionné le petit sourire et le clin d'œil qu'elle nous faisait quand elle disait ça. La vérité, elle le savait, c'est toute une époque, on vient de là, et c'est très bien comme ça.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'est pas née sous Giscard, mais elle a grandi avec Anne Sylvestre depuis une petite quinzaine d'années. Elle nous a, elle aussi, à sa manière accompagnée dans nos désirs, nos danses, nos plaisirs, nos errances. L'air du Verseau, son quatrième album apparu à la rentrée, introspectif et festif, pop, pointu, comme on l'aime depuis le début. Bonjour Yel.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Ce matin. Vous aussi, vous avez grandi avec Anne Sylvestre?
Ah oui, j'ai beaucoup écouté Anne Sylvestre quand j'étais enfant. Et c'est rigolo, mais du coup, je me suis évidemment replongée un peu, mais je l'avais déjà fait il y a quelques temps. Et c'est assez émouvant, en fait, de réécouter ces chansons-là. Ça m'a assez bouleversée, en fait.
Les fabulettes, quand vous étiez petit,
ouais,
avec vos parents, quand vous pensez à elles, quelle fabulette surgit aussitôt dans votre tête?
Eh bien, c'est La Petite Rivière, parce que c'est une chanson qui m'émeut beaucoup et qui, finalement, je m'y retrouve beaucoup parce que moi, j'ai grandi à côté d'une rivière.
Ouais.
J'y ai passé beaucoup de temps. Des jours d'enfance et d'adolescence et des premiers émois, etc. Et je sais pas, c'est comme si c'était un spectateur de ma vie. Et donc cette chanson, ça me touche, je sais pas pourquoi.
Parce que j'en suis sûr, vous vouliez pas vous réveiller quand vous étiez petite, parce que c'est ça La Petite Rivière. Ça fait comment déjà?
La petite rivière, elle est toujours couchée, toujours couchée. La petite rivière, elle peut pas se lever, pas se lever.
C'est super, merci. Anne Sylvestre, évidemment, c'était pas que les fabulettes, même si elles ont beaucoup compté pour notre génération, c'était aussi un répertoire de chansons souvent très engagées. Qu'est-ce que ça dit, à votre avis, du pouvoir d'une chanson? À la fois qu'elle reste et à la fois qu'elle compte.
Oui, bien sûr, et puis qu'elle a quelque chose à jouer à un moment donné, et que finalement, ça peut marquer les gens à un moment, et puis ça peut les accompagner aussi toute une vie et leur donner peut-être du courage aussi pour faire des choses, pour se révéler, pour plein de choses.
Oui, je pense évidemment aux chansons féministes d'Anne Sylvestre. Dans quelle vision de la femme est-ce que vous avez été élevée, vous, Yael?
Eh ben, dans celle-là, dans la vision de la femme libre qui est indépendante, qui fait ses choix. Moi, j'avais des parents qui étaient très indépendants. Et je voyais dans ma famille tous les jours quelque chose de très équilibré avec chacun qui prend son rôle, et c'était hyper important.
Et vous pensez que cette éducation, ça a eu une incidence sur la tonalité que vous employez dans vos propres chansons, sur vos chansons même?
Bien sûr, parce que quand on grandit dans une famille où on voit des rapports sains, des rapports d'égalité, tout simplement, de respect, d'équité, eh bien, je sais pas, ça, évidemment que ça nourrit une conception, et surtout quand on voit que des fois chez les autres c'est pas le cas, on se dit, ah oui, peut-être qu'en fait c'est pas mal chez moi.
Votre père, il en disait quoi de tout ça, de votre carrière fulgurante très jeune, Yael?
Je crois qu'il était fier, et il était assez fier aussi du fait qu'on tourne beaucoup à l'étranger, qu'on soit un groupe qui soit connu à l'étranger.
Ouais.
Je pense qu'il aimait ça. Lui, c'était aussi, il aimait voyager, il aimait découvrir des cultures, des gens, et même s'il a quand même fait des concerts un petit peu ailleurs. Il est resté quand même plus principalement en France et puis en Bretagne.
Il faut rappeler que c'était un musicien, François oui. Budet. Il s'est fait connaître au milieu des années 60 grâce notamment à son titre « L'eau qui vit de la mer oui. ». Quel artiste est-ce que c'était pour vous ?
Mais c'était justement, c'était quelqu'un d'engagé, c'était quelqu'un qui aimait les gens et qui leur faisait savoir et qui se démenait souvent pour eux. Je l'ai vu voilà, aller donner du temps pour des causes et du coup, je pense que c'est... Oui, il m'a en tout cas transmis l'amour des autres, enfin, et l'amour et le respect des autres.
Il vous a chanté aussi ?
Oui, quand j'étais gamine, j'ai chanté sur des...
Sur scène ?
Non, pas sur scène, mais j'ai fait les chœurs dans plusieurs morceaux. Ouais.
Et qu'est-ce que vous avez le sentiment qui vous est appris musicalement ?
Ça, je sais pas. Je pense que c'était peut-être plus... plus de d'avoir le choix en fait de faire enfin avec mon frère on nous a toujours poussé à faire ce qu'on avait envie de faire en fait on nous a jamais mis de barrière on a toujours dit tu feras ce que tu voudras faire tu le feras bien tu le feras avec cœur et puis avec toute l'énergie que tu peux y mettre
sans
mais tu feras
soucier
ce que
de la vie des autres
exactement.
Et ça vous a servi, ça ?
Bah bien sûr, parce que voilà, le moment où tu te dis, est-ce que j'ai envie de faire ce métier, j'ai envie de chanter, mais j'ose pas. Et puis en fait, il y a un moment où ça part, et puis en fait, tu te dis que t'as déjà le consentement et l'aval des parents qui vont pas te brider ou qui vont pas te juger. Et, alors qu'on est arrivé avec un titre qui était un petit peu rentre-dedans, un peu, voilà. Et donc, j'imagine que quand ils ont entendu le morceau la première fois, ils étaient un peu surpris.
Il vous en a pas parlé ?
Si, on en a parlé, mais peut-être finalement après, sur le...
Et il vous a dit quand même, heureusement que c'était flouté.
Je crois que c'était surtout dans les oreilles de mes tontons que c'était peut-être plus compliqué d'entendre.
C'est drôle parce que ce père, j'ai l'impression qu'il est très présent dans votre nouveau disque, oui. L'ère du Verseau. Quand est-ce que vous avez compris que sa disparition était venue jeter peut-être un voile de gravité aussi sur vos chansons ?
Finalement, après, une fois que cet album a été terminé, en fait, en le réécoutant et en prenant du recul avec Jean-François, avec Grand Marnier, on s'est dit, c'est vrai qu'il y a une espèce de gravité qui avait peut-être pas autant avant, qui était déjà là par petites bribes. Mais c'est vrai que il y a eu ce truc-là de, moi j'ai toujours l'impression d'avoir été une enfant, enfin, de rester une ado et le moment où mon père est décédé, j'ai l'impression d'avoir basculé dans l'âge adulte de manière très violente.
Alors c'est intéressant, je pense à des titres comme Peine de mort ou Un million qui sont empreints effectivement de cette mélancolie mais qui restent, et ça c'est intéressant, très dansant.
Oui.
Et la question que je me pose c'est comment on fait pour faire danser avec la mélancolie, Yael ?
Ben, je crois que c'est justement la meilleure façon de laisser exprimer la mélancolie, de danser en même temps, parce qu'il y a cette libération du corps, et pour moi la libération du... Enfin moi j'ai déverrouillé plein de choses intérieurement grâce au fait de danser, grâce au fait de libérer mon corps. Et je pense que ça passe vraiment par là, et aussi pour des émotions comme ça qui sont enfouies ou qui peuvent être difficiles à partager ou à libérer. Et la danse amène cette liberté.
Dans la chanson Un million, vous parlez de votre million de peurs.
Oui.
De quoi vous avez peur ?
J'ai peur de tout. je suis une grande anxieuse, mais un à l'intérieur.
Rassurez-moi, vous n'avez pas peur ce matin.
J'avais quand même un petit peu peur, mais ça va, je suis détendue
bon,
ailleurs.
C'est vous. C'est qu'il y en a une qui nous fait peur dans cette émission, c'est la culture et son actualité qui fait parfois preuve d'un peu trop d'intensité, même si on l'aime bien. Il faut le dire, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 3 décembre ?
Pour être artiste, il faut du temps, il faut de la patience pour être ce que l'on est et pour savoir qui l'on est.
Bienvenue sous la coupole.
La danse sous la coupole, la chorégraphe et danseuse Caroline Carlson a été élue hier à l'Académie des Beaux-Arts. Elle y rejoint notamment Blancali et Angelin Préjlocage, pionnières de la danse contemporaine qu'elle a révolutionnée depuis les scènes de l'Opéra de Paris et de la Fenice de Venise. Caroline Carlson est l'autrice d'une centaine de créations inspirées par l'énergie des éléments naturels et la vibration du geste. Elle est par ailleurs la seule chorégraphe à avoir remporté un Lion d'or à la Biennale de Venise en 2006 pour l'ensemble de son œuvre Chic.
Nous les femmes, nous avons envie de dire tout ce qui peut paraître un blasphème dans notre société.
Prix Goncourt.
Pluie de prix. Hier, c'est le très prescripteur prix Goncourt des lycéens qui a été décerné à l'autrice camerounaise Jaylee Amadou Amal pour son roman de femme de révolte, Les Impatientes, paru aux éditions Emmanuel Colas. Dans le même temps, le joli prix décembre a sacré Grégory Le Floch pour son dépaysant de parcourir le monde et d'y rôder, déjà récompensé du Vepler la semaine dernière. Enfin, le prix Apollinaire, considéré comme le Goncourt de la poésie, a été remis à Nimrod pour son petit éloge de la lumière nature. Ça a de l'allure. On pousse les meubles du salon et on monte le son. Le Festival des Transmusicales de Rennes fait acte de résistance et propose depuis hier une édition 2020 réduite, électrique, accessible à tous, entièrement en live stream, capté depuis le Trabendo à Paris et l'Ubu de Rennes. La manifestation propose 12 concerts à regarder bien confinés. Ce soir, dès 20h, on fait péter les boomers et les plombs des voisins avec l'afro-pop flamboyante de James BKS, les rythmes ensorcelants de la Daniva et la techno-punk de l'américaine Louisa. C'est bon ça!
Déjà, pourquoi pas jouer à l'eau glacée? Parce qu'il faut se toucher pour l'eau glacée.
Ne m'en parle pas, Margot, mais aujourd'hui, jeudi confit, qu'est-ce qu'on fait? On se prescrit des pépites et plein de bouquins avec le Salon du Livre Jeunesse de Montreuil qui déploie sa 36e édition entièrement en ligne et notamment en vidéo sur le site viagrandparis.tv avec des émissions littéraires, des leçons de dessin, des lectures, des dessins animés spécialement programmés pour l'occasion. 200 auteurs invités participeront aux réjouissances comme Marie Desplechin, lauréate de la Grande Ourse 2020, une nouvelle récompense créée par le Salon l'an dernier, ou encore le formidable Timothée de Fombelle qui sera notre invité demain. On est bien. Et la musicienne Yael est chanteuse aussi, invitée de Boomerang ce matin. Votre nouvel album L'Air du Verseau est sorti à la rentrée, je le disais. Si tout s'était passé comme prévu, ben vous auriez été actuellement en plein milieu d'une tournée.
Oui.
Que ces concerts ne puissent pas avoir lieu, ça fait quoi?
Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que nous, on fait de la musique pour ça, pour retrouver les gens, pour partager des moments avec eux, pour les voir danser, les voir, je sais pas, s'embrasser, crier. Enfin, il y a vraiment une transmission d'énergie qui est très forte pendant les concerts. Et là, c'est super frustrant de ne pas retrouver ça.
C'est intéressant. Dans quelle mesure un album existe pleinement à la seule condition d'être joué en public?
Oui. Enfin, je sais pas. Même si les gens, évidemment, peuvent écouter l'album, mais c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas pareil. Il y a vraiment un moment où les chanter en live, ben ça leur donne une autre forme d'existence.
C'est comme un texte de théâtre en fait, tant qu'il n'est pas joué, ça n'existe pas.
C'est exactement ça.
Qu'est-ce que vous ressentez physiquement quand vous êtes sur scène, Yael?
Une grosse montée d'adrénaline. Moi, je suis très traqueuse en plus. Donc,
encore la peur.
Oh là, toujours. Et donc, les premiers instants sont très flottants, très tremblants. Et puis, une fois que c'est parti, il y a une espèce de... Je sais pas, c'est assez inexplicable, mais il y a une... c'est une force que je ne retrouve pas ailleurs dans mon quotidien. Je n'ai jamais retrouvé cette sensation de puissance et de pouvoir, comme si j'avais de l'énergie, de l'électricité au bout des doigts et que je pouvais l'envoyer vers les gens.
Vous les sentez, en fait, les gens dont vous parlez. Ceux qui vous font face, qui vous regardent, qui vous écoutent, qui s'embrassent parfois, qui sautent, qui postillonnent.
Aussi beaucoup.
À quel moment est-ce que vous avez pris la mesure de l'émotion que pouvait provoquer une chanson sur scène, je suppose?
Ouais, sur scène, en me rendant compte que moi, ça me provoquait des émotions déjà, que de chanter quelque chose, d'être entièrement à ce que je raconte, et puis de voir que ça provoque des choses chez les gens en fait, parce que quand on écoute un morceau chez soi, voilà, on est dans son petit cocon et on voit pas. Et là, le fait de voir les gens réagir, sourire, se figer, pâlir, pleurer, enfin voilà, tout ça, c'est très visuel. En
vous
fait.
Pensez à quoi? Il y a eu un concert en particulier, un moment en particulier, un titre que vous avez chanté où il s'est passé quelque chose que vous n'oublierez pas?
Oui, quand on a fait le Casino de Paris à la fin de la tournée Complètement Fou, on a joué un morceau qui s'appelle Les Soupirs et les Refrains, qui est un morceau vraiment très, très personnel. Et c'était la première fois qu'on le jouait et la dernière fois parce qu'on, voilà, c'était le dernier concert de notre tournée. Et donc, on savait que ça allait être un peu touchy, quoi, de le jouer comme ça à froid pour la première fois. première fois et nous, ça nous a bouleversés tous les trois hein, sur scène. On était tous les trois en larmes et on sentait que chez les gens il se passait un truc parce que en fait on l'avait jamais joué ce morceau et ça reste un souvenir hyper fort, hyper intense.
Vous le rejouez parfois ?
Non, on l'a pas rejoué encore.
Depuis 14 ans, Yael, vous êtes acclamée dans le monde entier. Vous le disiez en parlant de votre père. Vous en parlez d'ailleurs sur un titre de l'ère du Verseau qui s'appelle Mon beau chagrin. Ça vous est arrivé de pas vous sentir bien accueilli dans votre propre pays, la France ?
J'ai parfois eu la sensation de pas être tout à fait comprise. De faire une musique qui n'était pas comprise dans mon propre pays. Alors que moi, j'avais l'impression et que j'ai toujours l'impression de faire de la pop en chantée en français. Donc en plus dans ma propre langue qui s'adresse à mes congénères et puis d'être en effet un peu un peu incompris.
Et vous avez compris pourquoi ? Qu'est-ce qui bloquait ?
Non, je ne sais pas. Peut-être que ça a commencé en brouillant les pistes, en faisant des morceaux comme Je veux te voir ou la reprise À cause des garçons puis ce duo avec Fatal Bazooka par la main. Peut-être qu'on a brouillé un petit peu les pistes comme ça au départ et que les gens n'ont pas compris, se disant mais qu'est-ce qu'elle fait elle.
Mais on s'en souvient encore de ces titres-là.
Mais voilà, en même temps ils sont restés mais après j'ai pas de rancœur. C'est comme ça en fait. C'est mon histoire.
Ça a pu vous heurter
comme ça.
Quand
non.
Même.
Non, c'est juste un constat, c'est de se dire bon on a une histoire particulière avec la France, peut-être que ce sera toujours un peu comme ça, mais c'est pas grave parce qu'évidemment il y a des gens qui nous suivent, qui nous sont fidèles et qui continuent de nous porter aussi.
Et en plus la France vous l'aimez plus que jamais, c'est ce que vous dites dans un titre paru peu avant la fin du premier confinement.
Je fais des efforts, j'explique bien, je suis sûrement inadapté. Quand je m'exporte, j'explique rien, j'ai pas besoin de m'expliquer. C'est peut-être là la vérité, tu te poses beaucoup de questions. Ou peut-être pas assez, c'est moi qui suis vraiment con.
Je t'aime encore, premier extrait de l'ère du Verseau. Donc Yael, et ce qui frappe évidemment, c'est la manière dont votre voix est modulée, altérée, travaillée par l'autotune, comme si la voix chez vous, c'était toujours envisagée comme une matière en fait.
C'est
assez passionnant.
Ça. C'est complètement ça. Moi, je crois vraiment que la voix est un instrument de musique et que, au même titre qu'une guitare, on peut la distordre, on peut lui mettre des effets. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'utiliser la voix comme ça. Ça ouvre des portes, ça ouvre plein de possibilités. L'autotune, c'est pas que un effet pour corriger la voix. Ça permet vraiment de la rendre un peu froide, comme ça, un peu étrange, un peu flottante. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est qu'il y a plein de choses à imaginer avec ça.
Et alors, c'est un vrai enjeu en l'occurrence. La voix pour cet album, il paraît que pour ce disque, vous avez enregistré votre voix d'une façon un peu particulière, isolée dans une sorte de cabane. Alors j'avoue que j'ai pas tout compris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Parce que en fait, dans notre studio, c'est un grenier en fait qui a été aménagé. Et pour des questions de qualité de son, il fallait que je sois dans un endroit un peu feutré. Donc on avait mis des matelas avec des couettes, des trucs pour absorber le son.
Faites tout à la maison.
Oui, exactement, on fait tout à la maison. Et donc voilà, j'avais une espèce de petite cabane, ouais. Et c'était bien parce que j'étais toute seule à l'intérieur. J'étais dans mon espace et donc je pouvais peut-être libérer des choses plus facilement.
Pour pouvoir se lâcher, en fait.
Exactement.
Parce que c'est difficile, ça.
Oui, moi, le studio, c'est un passage difficile parce que j'ai toujours envie que ça se passe bien et vite et que ce soit efficace. Et c'est jamais le cas.
Ah, c'est toujours. Vous seriez un peu dans le contrôle, Yael.
Pas du tout. non, mais voilà, il y a ce moment qui est c'est un petit peu compliqué et du coup, là, le fait d'être caché, finalement, ça permet de faire des grimaces, de pouvoir lever les bras vers le ciel. Enfin, voilà, d'être
et donc de moduler cette
corps.
Voix.
Et après, voilà, et après de la travailler.
Quand est-ce que vous oubliez tout ? Quand est-ce que vous parvenez à lâcher les chiens, à tout donner sans réfléchir ?
Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un moment presque d'état de transe qui fait que que c'est plus contrôlé. Mais c'est vrai qu'il y a un truc de contrôle, hein, vraiment de mais dans tout, dans les émotions, dans tout ça, de pas vouloir trop, peut-être de pas vouloir déranger des fois avec
c'est
avec
pour
des
ça
émotions.
La scène que c'est si important.
Oui, oui, je pense que c'est vraiment, moi j'ai vraiment l'impression d'être, enfin, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, d'avoir un espèce de moment où
Dr. Julie et mystérielle.
De passer la scène, c'est comme si j'enlevais ma peau et que j'étais que j'avais quelque chose d'autre
là,
en dessous.
Voilà, ça devient flippant. Et en fait, on essaye quand même de passer une bonne matinée. Vous savez comment on est dans cette émission. De toute façon, c'est une scène ici. Moi, j'ai envie qu'on lâche tout. Ensemble, on va tout lâcher. En écoutant Vue d'en face, vous êtes sur France Inter avec Yael. Vous écoutez Boomerang et on vous voit.
Trapenard.
Ça sert à rien de faire semblant de le cacher ou de faire semblant que ça se voit pas, parce que ça se voit. Hein, on est quelque part entre l'héroïne futuriste de Brocéliande, la petite fille de Mona Azouf, et l'égérie de la Brest Pride, le cheveu iodé, le regard corrigant, l'énergie marine, tout en gros pull ce matin, la chanteuse et musicienne Yael, invitée de Boomerang. Et même si la Brest Pride n'est pas pour demain, l'importance de la Bretagne dans votre parcours, c'est loin d'être anecdotique. Votre ville de Saint-Brieuc, vous n'en êtes jamais partie. Vous avez envisagé un jour de la quitter?
Oui. Mais pour aller loin, finalement, pour aller à Los Angeles ou à Austin, au Texas, des choses comme ça. mais pas pour aller à Paris, par exemple.
Avec quel paysage est-ce que vous avez grandi, Yael ?
Eh ben, j'ai grandi à la campagne, donc comme je disais tout à l'heure, au-dessus d'une rivière, donc dans une maison qui était une ferme autrefois, avec des champs autour, des vaches, et puis beaucoup, beaucoup de nature.
La mer pas très loin ?
Et la mer pas très loin, à une quinzaine de kilomètres.
Parce que Saint-Brieuc, c'est une ville intéressante qui est à la fois collée à la mer, qui pourtant semble lui tourner le dos. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes face à la mer, vous ?
Ben moi, je me rends compte que j'en ai besoin, en fait, vraiment pour me sentir bien. C'est-à-dire que quand je pars trop longtemps, je me sens pas super. Donc ça me nourrit, quoi, tout simplement. J'ai besoin de l'avoir.
Et ça vous a nourri, en l'occurrence, ce territoire pour cet album, L'ère du Verseau, sur un plan esthétique. Je suppose le Verseau qui est, je rappelle, le signe de l'eau.
Oui. C'est vrai.
Ça m'a pas échappé, vous voyez, comme je suis. L'esthétique que vous portez, elle passe pas seulement par des images, elle passe aussi par des mots, par une langue. La langue française, vous l'avez jamais abandonnée, vous l'avez même brandie à une époque où beaucoup de groupes français d'électro, notamment, se tournaient vers l'anglais.
Oui.
Pourquoi ?
Bah parce que je trouve que c'est une langue formidable et moi, j'avais envie de pouvoir m'exprimer de manière très précise. Et même si je parle pas mal anglais, j'ai pas le vocabulaire pour raconter ce que j'ai envie de dire, jouer avec les mots, etc. C'est pas si facile en anglais.
C'est-à-dire qu'on pourrait croire pour ce type de musique que le texte ne compte pas. Ce que vous disiez haut et fort, c'est que ça compte terriblement.
Bien sûr, ça compte terriblement. Et puis, c'est pas juste faire des jeux de mots ou faire des... Moi, j'ai toujours aimé les doubles sens, les images, que les gens se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, en fait, et aussi puissent faire leur propre interprétation.
Et vous vous rendiez compte, à l'époque, il y a 15 ans, que c'était un parti pris qui était très fort?
Oui, parce que on sentait bien que c'était bizarre, bizarre. C'était un peu trop fort comme mot, mais en tout cas que c'était un peu incongru. Il y avait vraiment beaucoup de groupes d'électropop qui chantaient en anglais, et puis en fait, sinon c'était de la chanson française ou de la variété qui chantait en français. Donc et en fait, nous, on aimait la pop française, on aimait Lio, on aimait Élie Jacquenot, on aimait Dao, et donc on avait envie de ça, on avait envie de raconter des histoires de cette manière-là, et justement toujours en faisant danser les gens et en les emmenant.
Et puis c'est une langue, le français, dans laquelle vous vous autorisez jamais à mentir, en fait. Vous dites la vérité.
Ben oui, finalement c'est une langue là qui permet de libérer pas mal de choses.
Écrire des chansons, monter sur scène, c'est se mettre à nu, toujours.
Oui. Complètement.
Avec la violence qui va avec.
Oui, avec ce que ça comporte de retour aussi parfois. Mais après, je crois que c'est une bonne école aussi, la scène, de pouvoir justement tenter des choses, essayer, voir dans quoi on se sent à l'aise, poser les limites aussi, se dire maintenant ça, en fait, j'ai pas envie de le faire.
Comme si c'était une matière qui était jamais terminée.
Oui, et puis il y a plein de possibilités. Puis évidemment, en vieillissant, en grandissant, on se permet des choses peut-être qu'on se permettait pas avant. Et
comme
puis,
quoi, par exemple ?
Ben, je sais pas, comme assumer. Je sais pas, par exemple, assumer son corps, dans tous les moments, les jours bons et les jours mauvais aussi. C'est-à-dire que si t'as un costume pour 2 mois, ben, tu vas pas en changer. Donc, il y a des jours où t'as pas envie de le mettre parce que tu te sens pas super à l'aise. Et en fait, ben, t'y vas. Et puis, ça, voilà, finalement, ça passe parce que c'est aussi ta carapace, c'est aussi ton armure pour y aller.
Ce qui veut dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Hein. Yael, c'est le nom d'un groupe. Oui. Vous travaillez en duo avec votre compagnon de vie et de route,
oui.
Jean-François Perrier, alias DJ Grand Marnier. Dans quelle mesure la musique, ça a toujours été quelque chose qui se réfléchit à deux pour vous?
Je crois qu'on se complète beaucoup et qu'on se porte l'un et l'autre. C'est-à-dire que finalement, il y a quand même de la timidité et de la réticence à peut-être à y aller des fois. Et je pense que le fait d'être deux, et ben ça nous a porté aussi pour se dire non, mais on est plus fort ensemble. On peut y aller, on peut oser des choses et on n'a pas peur parce que de toute façon on y va ensemble.
J'ai entendu quand vous avez dit Élie Jacquenot, parce qu'il y en a eu des duos dans l'histoire de la pop française avec Élie Jacquenot. Je pense à Niagara, je pense à Rita Mitsouko. Vous y pensiez, vous aussi?
Alors pas de la même, enfin comment dire, Jean-François, il a jamais voulu être sur le devant de la scène. Ça lui va bien cette place de producteur, d'être à la batterie, etc. Et donc il y avait pas cette notion de vraiment de duo, mais plutôt de groupe, et puis de se dire quand même après moi c'était toujours des artistes que j'ai beaucoup que j'ai beaucoup aimé,
et c'est un son aussi, c'est le son des années 80.
Oui, aussi, ça nous a beaucoup inspiré parce que parce que c'est une musique dans laquelle on s'est souvent reconnu et qui nous a cette espèce de mélange de fantaisie et de folie un peu et parallèlement de gravité et de enfin il y a des chansons qui sont très lourdes aussi comme ça dans la pop française.
Quels sons est-ce que vous avez l'impression de proposer, Yael?
Je sais pas, moi j'ai l'impression d'être en accord avec mon temps. Moi je cherche pas à faire de la musique intemporelle. J'aime bien être justement à faire de la musique de 2020, là c'est le moment.
Ça veut dire que vous l'avez vu évoluer aussi.
Oui aussi, et puis de comment dire, de pas s'empêcher de tester de tenter des choses, en tout cas d'aller dans d'autres formes, dans d'autres sons, d'essayer toujours.
C'est ça, c'est-à-dire qu'à vous entendre, la musique, ça ne s'envisage pas autrement que dans la recherche.
Oui, c'est ça. C'est laisser mûrir aussi. Par exemple, sur l'air du verso, il y a des morceaux qu'on avait commencé à composer il y a 2-3 ans. Et puis en fait, ils n'étaient pas mûrs, ils n'étaient pas prêts. Il fallait que ça pousse encore. Et puis en fait, il y a un moment où on les réécoute, on se dit tiens, mais en fait là maintenant, ça, j'ai l'impression que c'est plus le moment. Et puis il y a aussi des révélations où en tout cas on se dit ok, là j'arrive à passer le cap et à me dire ok, j'arrive à le terminer, j'arrive à l'amener là où je voulais. Alors qu'avant, c'était pas prêt, c'était pas le moment.
Vous avez fait un cadeau ce matin.
Oui.
C'est un son tout neuf, là, pour le coup, avec lequel vous êtes venu. C'est une reprise du Carnet à spirale de William Scheller. Pourquoi ce titre que j'aime beaucoup, figurez-vous?
Parce que j'aime beaucoup William Scheller et j'ai redécouvert aussi des anciens albums à lui il y a quelques années. Et du coup, je me suis aussi rendu compte de la richesse de ces titres, de la manière d'aborder les choses. Et puis ce morceau, c'est un peu, je sais pas, c'est un morceau que j'ai l'impression d'avoir toujours entendu.
Et que on en revient en ritournelle.
Voilà, exactement. Et donc on se dit tiens, pourquoi pas celui-là. C'est un petit challenge de s'attaquer aussi à un si grand morceau. C'est toujours un peu la pression quand même, donc la pression encore.
la peur. On vous écoute, c'est parti.
J'ai encore perdu ton amour, tu sais. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Je l'ai pourtant rangé comme il fallait. C'est pas croyable comme tout disparaît. J'ai trouvé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous des collages à la gomme arabique. J'ai un an fouillé tous nos secrets. Je n'ai rien trouvé dans le peu qu'il restait. Sous quelques brouilles au fond, sans intérêt, des boules de gomme et des matins pas frais. J'ai gardé
là là, le carnet à spirale, William Scheller par Yael, dans Boomerang exclusivement. Merci Yael. Je rappelle que l'ère du verso, le quatrième album, c'est une bombe. On a hâte de le redécouvrir sur scène, avec de la danse, avec de la sueur, avec des postillons. Bref, et tout de suite, c'est les médias avec Sonia, à qui on ne dit pas au revoir. Mais bonjour.
Salut Augustin.
Salut.
À demain.
C'est parti.
Et comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h41. Vous êtes sur France Inter et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel Instant
Mais
M.
On s'intéresse à la façon dont les médias sont faits.
95 000 téléspectateurs.
Nos abonnements augmentent grâce au numérique.
On fout des sondages.
Mon invitée a grandi sous Giscard, mais elle est née sous Pompidou. Elle s'appelle Cécile Prieur, journaliste au Monde depuis 25 ans, directrice adjointe de la rédaction du quotidien. Cécile Prieur vient d'être nommée à la tête de l'Obs, hebdo robuste qui, avant le Covid, qui a un peu changé les choses, se portait plutôt pas mal, tout en souffrant de faire sans doute moins de bruit que d'autres, d'être moins bien identifié politiquement que d'autres. Dans un climat médiatique et politique franchement électrique, comment reprendre une part de voix quand on se revendique d'une gauche plutôt centriste et d'un journalisme plutôt raisonné? En clair, comment faire du bruit quand on est bien élevé?
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Ce qui, vous en conviendrez, est une sacrée question. Bonjour Cécile Prieur.
Bonjour.
Alors, l'Obs et ses défis pour l'avenir à l'heure où la gauche se déchire. On va en parler ensemble dans quelques minutes. Peut-être un mot sur cette couve de l'Obs que vous avez exhumée avec vos équipes. Cette nuit, on était en 81 au démarrage de la campagne.
Oui, donc quand on a su que Valéry Giscard d'Estaing
venait de mourir,
Pascal Richier a trouvé dans nos archives une couverture qui avait fait grand bruit à l'époque. En février 81, l'Obs avait titré « L'homme qui voulait être roi » en mettant en scène VGE avec une couronne sur la tête, les attributs du monarque,
Le manteau d'Hermine. Ça avait fait du bruit.
Ça avait fait du bruit, surtout ça l'avait ulcéré. Il avait fait étudier le contenu du numéro par l'Élysée, il en avait parlé lors d'une interview avec Morosi. Donc voilà, c'était un moment où on était en pleine campagne, il était évidemment plombé par les affaires qu'on connaît. Et voilà.
Donc, voilà. Alors, je vous propose évidemment, avant de plonger dans l'histoire de l'Obs et dans son avenir, de revenir à 1974. Je vais être très précise, on va revenir au 29 mai 1974, on est 5 jours après l'investiture de Valéry Giscard d'Estaing. À l'issue du Conseil des ministres, le nouveau chef de l'État déclare, en ce qui me concerne, il n'y aura plus de saisie de presse, même s'il y a des attaques contre le président de la République. À quoi Giscard fait-il référence? Au délit d'offense, un héritage du crime de lèse-majesté pour les uns, un rempart pour protéger la République selon les autres. Toujours est-il que De Gaulle a abondamment utilisé le délit d'offense pour traîner les journaux devant les tribunaux. Parmi les réformes et les grandes ruptures affirmées illico par Giscard, il y a donc ce fameux délit d'offense. Libération vient tout juste de naître, le quotidien fondé par Jean-Paul Sartre a été lancé un an auparavant. Serge July en devient le patron. Il est avec nous ce matin au téléphone. Bonjour Serge July.
Bonjour.
Alors, Giscard annonce qu'il ne se servira pas du délit d'offense et que Libération fait-il dès le lendemain matin?
Alors, d'abord sur le geste de Giscard, qui me semble très symbolique et très important, c'est la rupture avec la période gaulliste. Donc, je pense que Giscard est un de ceux qui, à droite, ont le mieux compris ce qui s'est passé en 68.
Oui.
Et il reprend un programme, d'ailleurs, qu'il n'invente pas. Il prend le programme de Chaban-Delmas, l'homme qui a été battu par Chirac, puisque vous rappelez, pour l'élection présidentielle de 74, il y a les 43 qui se rallient à Giscard contre Chaban-Delmas, qui élimine Chaban-Delmas. Mais celui qui a inventé le programme de la nouvelle société, qui va être la préoccupation principale de Giscard au président, c'est Chaban-Delmas. Et d'ailleurs, un autre président reprendra lui aussi ce programme, c'est François Mitterrand.
Et le délit d'offense là-dedans, Serge July, c'est vraiment un marqueur très important.
Bah, l'aspect symbolique de la rupture, quoi. Hein. Donc, on a alors Libé. Comment réagit Libé? On a parmi nos gènes, il y a évidemment la petite fibre Harakiri, Charlie Hebdo, et on pour montrer ce qu'est une liberté, il faut l'éprouver, il faut le faire. Donc, évidemment, on va faire une page, ça a été très difficile à faire, je peux vous dire, de faire des pages, des lignes, je me rappelle plus combien il y en avait, mais d'insultes, puisqu'on avait le droit désormais d'insulter le président de la République.
Et ben voilà, moi je les ai sous les yeux, Serge Julie. Depuis hier, insulter Giscard, c'est légal, titre Libé. S'ensuit donc cette page entière d'insultes qui sont vraiment enquillées les unes derrière les autres, parmi lesquelles